Nous retrouvons le romancier Jonathan Safran Foer, dont le roman Me voici vient d'être traduit aux éditions de l'Olivier par Stéphane Rock, tandis que Soël Gain traduira ses réponses. Je ne vais pas vous parler de politique française, Jonathan Safran Foer, parce que je ne suis pas sûr que vous ayez envie de commenter ce qui se passe dans notre pays. J'ai lu que le seul homme qui vous impressionnait véritablement était Barack Obama.
I think I was asked who
je pense qu'en fait, on m'a demandé quels étaient mes héros. Et j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question. Et c'est le nom qui m'est venu à l'esprit. Et mes souvenirs... Avec Trump, c'est sûr que... Rien ne le rend.
Il vous impressionne peut-être moins Donald Trump, il vous fait un petit peu peur, il vous fait très peur.
Il est
impressionnant, mais pas dans le bon sens.
I don't feel particularly scared of him.
Je n'ai pas peur.
I did when he was elected.
Quand il était élu, j'ai eu peur.
Because I think a lot of us feared that he was a kind of evil mastermind.
Pensaient que c'était une espèce de cerveau maléfique.
The reality is he's more like an evil retard.
Et en fait, c'est plus un imbécile avec de très mauvaises intentions.
Impotent and accomplishes nothing.
Il est incompétent, il n'a rien réalisé. Il a passé l'année dernière à creuser sa propre tombe.
Lorsque Trump a été élu, beaucoup de commentateurs ont été très surpris de cette élection et finalement l'image qui s'est imposée, Jonathan Safran Foer, c'est une Amérique coupée en deux, par exemple ceux qui habitent Washington comme Jacob et Julia, les deux personnages de votre roman, ils sont éduqués, ils lisent encore des livres et ils écoutent NPR, parce que je dois dire que la radio joue un rôle important dans votre roman, une radio qui est finalement assez semblable à France Culture, qui concerne plutôt les lettrés, qui est peut-être un peu snob, en tout cas c'est comme ça qu'elle est dépeinte dans votre roman. Avez-vous l'impression de vivre dans le même pays que les électeurs de Donald Trump?
You know, America has different parts, just as
l'Amérique
France has different parts.
À différentes régions, tout comme la France.
I think that the starkness of that difference has been a little bit overstated.
Différents aspects, je pense it's worth remembering que c'est exagéré. Il faut garder à l'esprit qu'Hillary avait 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Et les Russes ont également piraté l'élection, il faut garder cela à l'esprit également. Et bien qu'Hillary soit largement supérieure à Donald Trump, elle aurait été un bien meilleur président. Trump était un candidat largement supérieur à Hillary. Il a réussi à faire en sorte que les gens croient en lui. Hillary n'a pas réussi à faire cela. Peut-être en raison de misogynie de la part de certaines personnes, peut-être en raison de son parcours. Ça faisait très longtemps que les Clinton faisaient de la politique, les gens en avaient peut-être assez. Peu importe, la politique, c'est un concours de popularité, en ultime analyse. Bien qu'il ait réussi à impressionner les gens, elle a gagné.
Mais il y a un vrai paradoxe quand même aux États-Unis. Il y a d'un côté ce pays qui est perçu comme étant un géant de la culture de masse, c'est-à-dire pas forcément la culture, et puis de l'autre côté, notamment en France, il y a un véritable intérêt pour les romanciers américains. Vous en êtes d'ailleurs un exemple, Jonathan Safran Foer. Philippe Roth vient d'être publié dans la Pléiade, qui est donc considérée comme étant la collection la plus prestigieuse en France. Le fait d'être un romancier américain, est-ce que ça veut dire que vous aussi, vous courez vers une sorte d'idéal, le roman total américain que peut incarner, par exemple, Philip Roth à certains égards?
I don't think of myself as embodying much of anything other than.
Je pense pas que je représente quoi que ce soit. Je me représente moi-même. Et même parfois, ce n'est pas le cas. Je pense que la France a une relation particulière à la culture américaine. Et une relation particulière à la culture juive américaine. Et la culture africaine. Ce qui est une chose étrange.
It's I've never exactly known what to make of it, to be honest, as an American.
Je ne sais pas quoi en penser en tant qu'Américain.
In Paris, it's almost
à Paris, c'est presque fétichiste.
Ça tombe mal parce que j'avais des questions à vous poser à ce sujet, donc il va falloir que vous rassembliez vos esprits, Jonathan Safran-Foer. Dans votre livre qui raconte le divorce d'un couple après 16 ans de vie commune, il est beaucoup question du judaïsme, des relations avec Israël, de la manière dont on peut être à la fois juif et américain. C'est quelque chose de très exotique pour un Français, puisque en France, on a plutôt tendance à considérer que la religion n'est pas quelque chose d'essentiel pour marquer l'identité des individus. Qu'est-ce que ça veut dire être juif et américain pour vous ?
You know, I'm not sure to what extent I think of religion as being a big part of my
identity. Je pense que la religion joue un rôle dans mon identité. Je ne suis pas très religieux. Je crois, mais je ne pratique pas une religion en particulier, mais la culture juive est très importante pour moi. La question d'être juif et américain, c'est pas une question tellement différente que les questions avec lesquelles la France est aux prises à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire être français si vos ancêtres ne sont pas français? Ça veut dire parler français. On a les mêmes problèmes aux États-Unis. À l'avenir, il y aura plus de locuteurs de l'espagnol que de locuteurs de l'anglais aux États-Unis. Et on se pose la question, qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une identité? On en revient au titre du livre, « Me voici ». Quand on enlève les éléments de contexte qui nous ont été imposés, comment on se décrit? En tant qu'Américain, en tant que juif, en tant que mari, en tant que père? Ou peut-être qu'il n'y a rien, comme Julia, c'est les accusations de Julia à l'encontre de Jacob.
Mais être juif et américain dans votre livre, cela veut dire, par exemple, de manière évidente, avoir une relation compliquée avec Israël.
Je ne
sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas une relation compliquée avec Israël.
Ça, je ne sais pas, il faudrait poser la question à toutes les personnes présentes sur la Terre, mais en tout cas, vous, apparemment, et à coup sûr, vos personnages, n'ont pas une relation simple avec Israël.
Non, je veux dire, regarde,
Israël est devenu presque un gros mot. Simplement dire le nom du pays, c'est très connoté. Beaucoup de juifs américains ne sont pas à l'aise avec cela. Il y a un sentiment de proximité, un lien historique. Ils se sentent chez eux là-bas. On est entouré, ce sentiment d'être entouré des siens, mais ils sont critiques à l'égard d'Israël. La situation politique actuelle, la situation politico-historique, mais ce n'est pas tellement différent d'être un représentant des États-Unis.
Pourquoi ? Parce que vous considérez qu'il y a un parallélisme entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, par exemple, Jonathan Safran-Foer ?
Je pense qu'en tant qu'Américain et en tant que Juif, je suis à la fois fier, mais j'ai également des réserves par rapport à mon identité. J'imagine que c'est la même chose en tant que citoyen français. Ou du moins, c'était le cas quand il y avait Sarkozy au pouvoir. Enfin, je ne veux pas faire d'hypothèse, mais il y a des gens qui sont à la fois fiers d'avoir une identité ethnique et culturelle, et dans le même temps, ils sont très critiques de leurs représentants politiques.
à ceci près qu'il y a une proximité que vous soulignez d'ailleurs dans votre roman entre la société israélienne et la société américaine. On explique souvent, par exemple, que Tel Aviv est dans la banlieue de New York. Alors, vos personnages, ils vivent à Washington, mais on voit bien quand même qu'ils appartiennent à ce milieu juif qui peut se transposer à Tel Aviv assez facilement. Et c'est d'ailleurs, je n'aimerais pas spoiler votre livre en révélant la fin, mais il y a quand même des liens très étroits entre la société israélienne et la société américaine, d'après ce que vous décrivez.
Les Juifs américains sont dans une situation intéressante. Parce qu'il n'est pas complètement clair qu'est-ce qui les rend juifs, c'est ça qui n'est pas clair. Si vous êtes israélien, ce qui fait de moi un juif, c'est que je vis dans le foyer juif et je parle la langue des juifs. Un français, c'est quelqu'un qui est né de parents français, qui vit en France et qui parle français. Un juif américain ne vit pas en Israël, ils ont choisi de ne pas y vivre, ils ne parlent pas la langue des juifs parce qu'ils ont choisi de ne pas la parler et ne pratiquent pas depuis le judaïsme. Que reste-t-il ? C'est quoi ? C'est apprécier Seinfeld, Larry Davis ? Est-ce que c'est ça, être juif ?
Et apprécier Philip Roth ? Alors, j'arrête de vous embêter avec Philip Roth, Jonathan Safran-Foer, mais enfin, le premier écrivain juif américain qu'on a vu traiter de sexe de manière extrêmement crue, c'est Philip Roth, et j'ai cru comprendre que dans votre livre, il était aussi question de sexe dans des formulations que je ne citerai pas à l'antenne, mais qui sont également très crues.
Crude as well. Well, it is what it is.
J'ai écrit les choses telles qu'elles étaient. Les gens me disent, j'ai adoré votre livre, mais est-ce qu'il devait y avoir autant de
détails ? Les choses telles qu'elles sont, puisque Julia est très choquée par la manière dont Jacob s'adresse à cette femme avec laquelle il a une relation à minima épistolaire.
I doubt that there are any thoughts expressed in the book
that are not thoughts that have
been had by the readers of the book.
I think what's shocking, que le lecteur n'ait pas eu.
What's shocking about it is
ce qui est choquant,
the willingness of characters to express
their thoughts in different de les exprimer
situations, some of which feel
dans différentes situations.
Inappropriate,
parfois, on a l'impression que c'est inapproprié.
Il y a là aussi un télescopage entre cette forme donc de vie, qui est une forme de vie assez légère, puisque lorsqu'on est un couple de la classe moyenne à Washington, on n'a pas de grands soucis entre ces marivaudages, puisque les questions liées à la sexualité, là aussi, ne sont pas nécessairement dramatiques, et le télescopage avec l'histoire, avec la manière dont les ancêtres de ces personnages ont vécu, et notamment la présence du génocide, de la présence d'Auschwitz et de Treblinka. D'ailleurs, un personnage dit à un moment « On ne t'a jamais obligé à lire le poème ou l'extrait de journal intime ou je ne sais quoi écrit par ce gamin mort à Auschwitz ou peut-être à Treblinka. Ce n'est pas vraiment ce détail qui est important. Je veux juste te parler de l'extrait où il est dit « Tu joueras au ballon, joue pour moi ». Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, rappelle, au-delà de ce que vous avez dit sur la religion juive, le fait que, finalement, être un juif américain, c'était mener une existence confortable, souvent, confortable, alors même que la mémoire est, elle, extrêmement dure.
Temps pour un traumatisme, pour que ce traumatisme s'extirpe de la conscience collective. Je suis passé devant des bâtiments où il y avait des trous, des impacts de balles datant de l'occupation. En tant qu'individu, en tant que culture, on est défini par nos traumatismes. Ça peut entraîner une force, une créativité, une résilience, et ça peut nous, nous pousser vers une forme de peur ou de névrose, une vigilance qui n'est pas nécessaire. On a tendance à interpréter des choses comme étant des menaces alors qu'elles ne le sont pas. Il est intéressant de voir comment l'identité juive change alors que le traumatisme se dissipe. Est-ce que les Juifs vont arriver à maintenir leur identité sans ce traumatisme ?
Il y a aussi l'idée, ou en tout cas la question de savoir ce que va devenir l'identité juive. Il y a un prof de Harvard, Yuri Zletkin, qui a écrit un livre intitulé « Le siècle juif ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Dans ce livre, il est question d'une parenthèse dans l'histoire juive qui a été le 20e siècle, avec à la suite une normalisation. D'ailleurs, maintenant, les Juifs, ou en tout cas une partie d'entre eux, ont un pays. Vos héros, finalement, ils ont des problèmes qui sont des problèmes extrêmement ordinaire, rien ne les distingue des non-juifs, et on voit à la fois une histoire qui est une histoire marquée par le saut du tragique et des vies qui sont marquées par le saut du banal. Est-ce que ça ne signifie pas finalement que ce mot juif, il est en train de perdre sa signification, de se diluer dans la normalité humaine ?
Well, I can tell you that,
je peux vous dire
my grandmother,
que ma grand-mère
came from Europe and,
vient d'Europe.
Survived the war, but she
elle a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est le seul membre de sa famille à avoir survécu. Ses frères et sœurs, les parents, grands-parents, les enfants de l'école, tous ont été tués. Et ma mère est née dans un camp pour personnes déplacées. C'était le rêve de ma mère et de ma grand-mère de vivre une vie terriblement ennuyeuse dans une banlieue, dans une maison propre, avec suffisamment à manger. Ils ne cherchent pas à vivre une vie exceptionnelle. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Ma grand-mère a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est intégrée, assimilée. Quand elle me parle, vous auriez eu du mal à croire que c'était juste une génération ou deux avant, mais ma famille, ils avaient des grandes barbes, c'était des agriculteurs dans des villes en Europe de l'Est. Et je parle avec un accent américain. Et je suis complètement assimilé. Face à un traumatisme, on a l'impression que ces choses-là, c'est un peu comme la rédemption, mais qu'elles sont perdues.
Il y a un point, en tout cas, où je ne sais pas quel est votre rapport exact avec le judaïsme, où vous avez fait figure de prophète, et là on va quitter le terrain religieux, c'est celui de la cause animale, puisque je me suis rendu compte en préparant cette émission que votre livre « Faut-il manger les animaux ?», un livre qui a été publié il y a 8 ans, a eu un rôle extrêmement important. Beaucoup de mes camarades m'ont dit, voilà, par exemple, moi j'ai cessé de manger de la viande. Après avoir lu ce livre, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui toujours comme un militant de cette cause? Est-ce que vous vouliez écrire un livre militant à ce sujet, Jonathan Safran-Foer?
J'ai écrit un livre sur un sujet qui était très important à mes yeux. Et je n'ai pas fait grand-chose depuis l'écriture de ce livre. Je ne suis pas un militant dans le sens où je ne fais pas des discours. Mais c'est un thème qui continue à me préoccuper. J'y pense beaucoup. Et j'y pense de différentes manières. Lorsque j'ai écrit le livre, ma conception du végétarisme, c'était en raison des animaux. Maintenant, c'est plus l'environnement, le lien entre ce que l'on mange et le changement climatique. Le lien est tellement évident. Ce que l'on mange est tellement plus important que la voiture qu'on conduit, que l'électroménager qu'on a à la maison. L'agriculture d'élevage produit plus de gaz à effet de serre que tous les autres secteurs réunis. Donc, on approche la question de savoir Mon approche a changé. Au début, je voulais protéger les animaux, et maintenant, je veux protéger les êtres humains.
Mais ça je ne veux pas insister votre caractère de marginal aux États-Unis, Jonathan Safran-Foer, mais dans un pays qui place quand même encore très haut le hamburger et les nuggets. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, les bouchées de poulet panées qui sont quand même très populaires. Le fait de refuser de manger des animaux est aussi une manière d'être très isolé d'une grande partie de la population américaine.
Not really, you know, on American college campuses right now,
dans les
there
campus
are more
aux
vegetarians
États-Unis,
than Catholics.
Il y a plus de végétariens que de catholiques.
That's a pretty startling statistic, and
it's people assez éloquente.
Younger than us.
You know, c'est les gens qui sont plus jeunes que nous.
An aspirational identity, and those are the people
c'est une aspiration
who are
identitaire.
Sitting behind the microphones
et les gens
in 10 years or
qui seront de l'autre côté du micro dans 10 ans,
and, they're gonna look back at the choices we made,
ils vont garder les choix qu'on a faits et ils se diront, mais qu'est-ce qu'ils croyaient?
Et puis, j'aimerais terminer par un point d'actualité aux États-Unis avec une affaire qui fait couler beaucoup d'encre, l'affaire liée à la découverte d'un scandale sexuel autour d'Harvey Weinstein, qui est un producteur d'Hollywood. On écoute un extrait de ce délit, un podcast réalisé par le New York Times où il est question de la conduite d'Harvey Weinstein.
From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Today, a Times investigation finds three decades of sexual harassment allegations against the Hollywood producer Harvey Weinstein. In response to the reporting, Weinstein released a statement. I realized some time ago that I needed to be a better person. Though I'm trying to do better, I know I have a long way to go. It's Friday, October 6th.
Cet extrait présente les excuses d'Harvey Weinstein suite à la découverte, une affaire révélée par le New York Times, qui a révélé que cet homme avait harcelé des femmes à Hollywood, des actrices. Et là, on se dit, Jonathan Safran-Foer, que l'Amérique est un drôle de pays qui oscille entre à la fois le politiquement correct, avec des relations, semble-t-il, extrêmement policées entre hommes et femmes, très codifiées, et puis de l'autre, une forme de sauvagerie en arrière. Plan. Quel est votre sentiment à ce sujet?
Well, first of all, it wasn't unearthed by the New York
Times. C'est pas New York Times qui a découvert. Tout le monde le savait. Ça faisait des années. Je le savais. Et je suis très loin d'Hollywood.
Also, I don't think it's political correctness to say that.
Je ne pense pas que ce soit du politiquement correct.
Sexual harassment is wrong,
or de dire que le harcèlement sexuel est mauvais ou que les abus sexuels sont quelque chose de négatif. Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs. Il y a une raison. La raison pour laquelle il y a une loi qui interdit aux adultes d'avoir des relations avec les enfants. Si vous perdez votre emploi à l'université si vous avez des relations avec des étudiants, parce qu'il y a un déséquilibre. Mais ce qui est intéressant, c'est ce deux poids deux mesures. Il y a des gens qui disent une chose et qui se comportent d'une manière différente quand il y a une incitation financière à se comporter d'une certaine manière. Il y a une industrie, un secteur qui a permis cela, qui a permis cette ordure de prospérer. Parce que c'était un peu comme une banque, il pouvait financer des projets, il pouvait rendre les gens riches. Quand il y avait une incitation à fermer les yeux, les mêmes gens qui parlaient qui avaient un discours politiquement correct, on ferme les yeux.
Jonathan Safran-Foer, Me voici, et c'est votre roman traduit aux éditions de l'Olivier. Merci à Soel Gain de nous avoir traduit vos réponses aux questions. Vous restez avec nous, je vais vous présenter mes camarades. Aurélien Bélanger qui va nous livrer sa conclusion définitive sur l'afficheur à palette de la gare Montparnasse. Bonne chance pour traduire cela. Arnaud Laporte qui, lui, va évoquer la mémoire de Jean Rochefort, un acteur qu'il a bien connu avec lequel il a réalisé un voix nue, et Alexandre Devecchio, notre camarade du Figaro.